fondation. Bien, le sujet d'aujourd'hui, donc, c'est autour des plaisirs et des risques de jeux vidéo et en réseau, c'est-à-dire sur les nets. Je suppose que tous... Très bien. Ok, je vous lève. Je suppose que... Ah oui, c'est bien. Que tous vous jouez sur le jeu vidéo et sur le net. Est-ce qu'il y en a qui ne jouent pas? Qui ne joue pas? Très bien, d'avoir une idée. Très bien. Très bien, ça me donne une idée de savoir qui ne connaît pas ce sujet. Et une deuxième question également. Est-ce que tout le monde a vu le film Avatar de James Cameron? Non. Alors, beaucoup ne l'ont pas vu. Plusieurs ne l'ont pas vu apparemment. Donc, puisque ce film n'aurait pas pu se réaliser, je pense, quelques décennies auparavant, une décennie auparavant, c'est effectivement le prolongement, vous le connaissez pour ceux qui jouent hein, le jeu vidéo, l'avatar, c'est le personnage, son double en quelque sorte, qu'on assume dans le jeu. Hein, l'avatar étant celui par lequel nous on agit à l'intérieur du jeu. Dans le jeu vidéo, mais dans le jeu en réseau aussi. Donc le film de James Cameron, qui est tout récent, il montre d'une manière très intelligente et belle, pour ceux qui l'ont vu, la relation qu'on peut avoir donc, entre le sujet pensant et agissant et l'avatar, avec des enjeux que le film met à sa manière. En tout cas, la notion de l'avatar est très importante pour les jeux vidéo et qui est devenu du coup un sujet très répandu, et d'où l'intérêt de ce film passionnant. Alors, par ailleurs, les questions des jeux vidéo, de l'utilisation du net est un sujet très répandu également. Et rien qu'en venant, j'ai vu ce journal que vous connaissez peut-être, le Sans-Abri. Journal, donc, première page sur Facebook, que plusieurs utilisent, je suppose, également. Donc, son titre, Grandeur et dérapage. Voilà donc pour dire l'actualité de ces sujets qui nous ont de plus en plus disons, envahis en quelque sorte dans notre vie quotidienne. Alors, dans mon propos, je ferai trois temps en quelque sorte. Un temps autour de la notion du jeu, parce que c'est quand même des jeux et les plaisirs dont on parle, c'est autour du jeu, la manière de jouer, qu'est-ce qu'il y a dedans. Deuxième sujet rapide autour de la notion de la vitesse, parce que ces jeux se déroulent dans des grandes vitesses et pas du tout comme on jouait avant au jeu de billes ou dans la cour ou ailleurs. Et puis des questions sur l'image, le virtuel, et puis quelques notions des risques hein, qui se présentent. Alors la notion, avant de commencer, quelques questions mais que vous compléterez vous-même par la suite. Que des élèves d'autres secondes, ont posé il y a quelque temps et qui montrent l'intérêt de cela, de ce sujet. Je vous les lis pour voir que des semblables à vous ont déjà posé des questions. Voilà, une première question. Que pensez-vous des jeux en ligne? Exemple, World of Warcraft. L'exemple, on reviendra. Comment, une autre question d'élèves, j'ai culture des élèves, comment arrêter l'addiction aux jeux vidéo? Est-ce que les jeux vidéo sont mauvais pour la santé? Y a-t-il une autre façon de se créer une double vie comme dans le jeu? La question de la double vie. Les jeux vidéo sont-ils dangereux pour la santé? Et est-ce que Facebook et MSN sont mauvais pour la santé? Voilà, d'autres... Je m'arrêterai à ce niveau-là. Les jeux vidéo peuvent-ils entraîner une banalisation de la violence chez les jeunes? voilà, donc le jeu, disons, tout au en premier, hein, la question du jeu, et par laquelle, la notion par laquelle, disons, l'implication même du petit bébé se fait avec les autres. Hein. L'implication, les échanges et le plaisir dans les échanges se fait autour des jeux, dans la mesure où les autres plaisirs sont plutôt du corps, hein, manger, dormir, etc. Mais la première base de plaisir avec les autres, c'est autour des jeux qui commencent très tôt dans la vie. Et on le voit même au niveau des petits-enfants qui commencent à jouer et qui développent la notion de maîtriser quelque chose, en fait. Maîtriser des peurs, maîtriser des angoisses, maîtriser de séparation. Le jeu le plus classique qui a été observé pour devenir un objet d'étude, vous avez dû peut-être entendre parler, je vous le rappelle, ça a été fait par Freud lui-même, de son petit-fils, qui était dans son lit quand sa maman s'était absentée un petit moment. Et puis, il lançait une bobine avec une ficelle qui disparaissait derrière son lit et il la faisait revenir. En l'éloignant, cette bobine, il disait un « O ». Et puis, quand la bobine réapparaissait, c'était un « A ». Et peu à peu, donc en observant plus, Freud lui-même, il a constaté que le « O » correspondait au mot allemand « fort », qui veut dire « loin ». Et « l'A », c'est le « da » allemand, qui veut dire « là », « revenu ». Donc, il était très curieux par ce jeu, qui se produisait, qui se reproduit, pas qu'une fois, chaque fois que la maman du bébé s'éloignait. Et donc, il a constaté que par ce jeu, il mettait, quand la bobine disparaissait, c'était la maman qui disparaissait. Et quand la bobine réapparaissait, c'était en quelque sorte la maman qui réapparaissait. Pas vraiment. Mais le bébé, du coup, par ce jeu, maîtrisait, tentait de maîtriser ses propres difficultés de l'absence de sa propre mère. Donc, par le jeu, eh bien, il y a cette dimension de ne pas être que passif, mais d'être dans une implication où le monde n'est pas que à subir, mais on peut être acteur. Donc la notion de la maîtrise et du plaisir sont liées, bien entendu, en impliquant de plus en plus de partenaires. Là, c'était que la bobine, mais ça signifiait l'absent. Il y a d'autres notions qui sont liées, bien sûr, au niveau de jeu. Et la première notion qui vous concerne, la notion de l'école même, elle vient d'un mot grec qui se dit scholio, école. Vous voyez, c'est assez proche. En allemand, on dit schola, c'est la même racine. Or, ce mot d'origine ne veut pas dire école comme on l'entend aujourd'hui, mais ça voulait dire repos. Un temps de repos, presque de désœuvrement, par rapport à la contrainte du travail de cette époque ancienne, la Grèce ancienne, hein, où le travail n'était pas comme il est aujourd'hui, très rythmé, très entrecoupé. C'était pour survivre, il fallait bien passer quasiment toutes les heures de son éveil. Donc, dès qu'ils avaient un petit temps de repos, de scholi, eh bien, c'était le plaisir, là, de faire autre chose que la contrainte. Donc, vous voyez, l'ancien de l'école, c'est par rapport pour échapper, en quelque sorte, à la contrainte du travail. Et qu'est-ce qu'on mettait dans ce temps de scholi, hein, de repos? Eh bien, c'était bien ce qu'on peut faire pour s'amuser quand on n'a pas la contrainte du travail, donc des jeux. Divers jeux, à l'époque, on avait d'autres jeux qu'aujourd'hui, bien entendu. Mais progressivement, ils ont compris qu'on ne peut pas faire toujours les mêmes jeux, style les jeux de dés ou les jeux de jouer avec de petits osselets à l'époque, mais que plus on complexifie le jeu, plus le plaisir s'agrandit. Plus le jeu devient intellectuel, plus le jeu est compliqué et plus le plaisir s'agrandit. C'est-à-dire une sorte de dimension de sublimation en quelque sorte dans le jeu. Ce n'est pas que l'action corporelle pour le jeu, hein, le plaisir. Donc, c'est à partir de cette notion-là de l'oisivité dans laquelle on joue, qu'on n'est pas sur la contrainte, qui s'est développée la notion de l'école. Bien sûr, aujourd'hui, vous me direz, c'est du travail dur à l'école. Mais tout de même, c'est pour pouvoir à la fois, bien sûr, faire un travail qui est plus lié à sa passion, ce n'est pas un travail subi comme ça par contrainte, et dans le temps du travail ou du repos, de pouvoir développer des jeux, des plaisirs divers, y compris, bien sûr, jusqu'à des activités culturelles. Voilà la notion du jeu, comment elle se lie à la notion de l'école et à l'apprentissage. On apprend pour enrichir ses possibilités d'échange et de plaisir. Alors, dans les jeux vidéo en particulier, et encore plus sur ceux du net, hein, dont on va revenir, sur lesquels on va revenir, il y a en particulier dans ce jeu-là, hein, parce qu'il demande une interactivité très importante pour ceux qui jouent, donc une grande maîtrise des risques, une grande possibilité de s'adapter rapidement, hein, dans des environnements qui sont très instables. Vous avez en tête les scènes dans lesquelles se déroulent les jeux, où il y a constamment des changements, des virages, des milieux qui évoluent très rapidement. Donc voilà, la possibilité de s'adapter est la condition de survie souvent de son avatar, hein, pour revenir sur l'avatar. Gérer l'inattendu également, mais aussi ce qu'on ne fait pas dans les apprentissages linéaires, de gérer des informations qui viennent en parallèle. On est en train de faire quelque chose et en même temps on surveille d'autres informations qui viennent par les côtés latéraux. Bien entendu, de plus en plus pour les jeux sur les réseaux, c'est des jeux de socialisation. Hein, on joue à plusieurs. Et à travers les jeux, on fait des amis, on fait des copains, etc. Il y a quelques risques, on va y revenir, mais tout de même, c'est des jeux qui permettent aujourd'hui, pour un jeune comme vous, mais des moins jeunes, des fois aussi jouent, de jouer avec des semblables de la planète entière. C'était en simultané. Hein, dans son jeu, on va revenir de World of Warcraft ou Guild Wars, etc. Les partenaires, des fois, ne sont pas du village d'à côté ou pas de la même ville ou pas du même pays. Et des fois, ils sont de très loin, on les découvre. Voilà, donc, de développer une socialisation qui est tout à fait nouvelle, hein, pour la façon de vivre aujourd'hui. Et devant laquelle, d'ailleurs, des personnes plus âgées, qui est mon cas, et d'autres parents, eh bien, on est un peu surpris de voir ça et puis on a peur. Donc, ce qui fait que les relations, des fois, entre générations, sont tendues autour de cela. Alors, je ne vais pas dire par là qu'il ne faut pas avoir des inquiétudes, mais ce n'est pas forcément de la peur. D'autres dimensions, donc, des qualités qui sont développées par ces jeux, c'est, bien sûr, de développer des alliances, de développer de la communication également, canaliser l'agressivité, puisqu'il faut échouer dans plusieurs étapes, y revenir, et pouvoir supporter la frustration. Donc c'est aussi des résultats, si on peut dire, des acquisitions presque à travers ces jeux. La persévérance, parce que des fois c'est très compliqué, plus les étapes montent, plus c'est compliqué. Quelques-uns de mes collègues, hein, qui pensent autour de ces activités de jeu, les lient au rite initiatique également pour les jeunes aujourd'hui, une manière de découvrir le monde à travers ce type de jeu. Là, je ne serais pas d'accord, d'autant plus que j'ai vu des rites initiatiques et qui n'ont pas du tout ni cette valeur, ni ce but, les rites initiatiques. Les rites initiatiques, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, qui se pratiquent dans ces ethnies traditionnelles, elles visent à transformer à travers ces rites un jeune qui n'est pas vraiment un adolescent comme chez nous, mais plutôt un enfant, à un adulte, et avec le but de lui placer dans la position de préserver les traditions. Pas tellement pour s'ouvrir au nouveau et à la découverte. Hein. Donc c'est dans ce sens qu'associer la notion de l'initiation à ce type de jeu sont pas très pertinentes, je pense. Alors, Bien sûr, donc, ces jeux comportent quelques risques, si on peut dire. C'est un début des risques quand, en jouant, on peut glisser vers des fonctions de ce jeu qui visent à nous faire éviter quelque chose. C'est possible. Donc, ça peut être l'évitement de tristesse, de moments tristes, de façon d'oublier, de douleurs, des angoisses, de confrontations familiales, on peut vivre des intrusions, de difficultés relationnelles. Donc, partir dans le jeu, c'est effectivement une manière d'échapper à tout ça. Mais effectivement, si on tente par le jeu d'échapper à des difficultés qui sont quotidiennes, eh bien, le jeu vient dans une autre fonction, du coup, car on ne surmonte pas les difficultés et le jeu, avec des partenaires imaginaires, ne remplace pas les relations réelles. On va y revenir sans doute. Voilà, d'être toujours connecté, c'est une manière, disons, de ne pas être avec des personnes réelles, hein, toujours connecté. Et on peut, dans le jeu, être toujours connecté. Il y a toujours quelqu'un, dans la mesure où les jeux, maintenant, comme je vous disais, sont sur toute la planète. Et vu le faisceau horaire, il y a toujours quelqu'un, hein, avec ce jeu-là, qui se joue dans le réseau. Mais voilà, donc le fait d'avoir toujours quelqu'un présent vient, comme je parlais juste avant du jeu de la bobine du bébé, vient ne pas du tout pouvoir surmonter la question de l'absence des personnes avec lesquelles on est proche et peut-être quelquefois en difficulté. Autre risque également, c'est cette dimension où, comme vous l'avez constaté tous, hein, l'avatar, son avatar dans le jeu, parce qu'on a un personnage dans le jeu, bien ne s'effondre jamais. Ah, même s'il est attaqué, même s'il meurt, on peut toujours redémarrer dans une case d'avant, on revient. Donc cette dimension d'être dans une fonction d'idéal immortel, et ce qui est un héros, disons, qui ne connaît rien après tout, et qui, du coup, ne correspond pas à la réalité de la vie. Hein. Voilà, et en plus, disons, ce que les adolescents, surtout quand ils jouent dans ce jeu, ils ne voient pas ce qu'ils se présentent comme des héros, hein, des partenaires de jeu qui sont très performants, qui ont accumulé beaucoup de points pour certains jeux, eh bien, ils ne savent pas, enfin, ils n'y pensent pas que ces héros de leur guilde, hein, de leur alliance, etc., c'est pour accumuler ces points, il faut passer beaucoup d'heures sur le net. Et pour passer beaucoup d'heures sur le net, il faut ne pas aller à l'école ou ne pas aller au travail. Et quand on fouille un peu plus, qui sont ces héros de l'alliance dans laquelle on joue? Eh bien, souvent, c'est des chômeurs de longue durée. Vous voyez comment les choses sont inversées, en quelque sorte. Quelqu'un qui se présente comme très performant dans ce jeu, eh bien, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout performant socialement. En plus, avec d'autres dérives, disons, qui se développent, pour certains jeux, particulièrement même, je dirais, pour le World of Warcraft, on peut vendre sa position dans un jeu. Et c'est le jeu qui développe le plus de ce qu'on appelle l'addiction, c'est-à-dire la dépendance, car du fait qu'on doit être dans une alliance, hein, eh bien, tenir sa place dans cette alliance, et quand ça vient d'autres alliances de la vie concrète, eh bien, ça devient presque vital pour certains. Donc, soit on peut aller jusqu'à ne plus quitter sa connexion, et rester constamment connecté, puisqu'on ne veut pas perdre sa place. Vous voyez, on est poussé. Soit on peut aller vers la direction d'acheter des points par ceux qui le vendent. Et bien sûr, donc tout ça, ça demande de l'argent. Donc pour trouver de l'argent, on est amené à faire d'autres combines pour les trouver, etc. Voilà comment, disons, un jeu tout à fait sympathique peut, en venant à la place d'autres relations, devenir un jeu dont on dépend et qui vient à la place de la vie réelle, en quelque sorte. Hein. Une autre chose dont je peux dire un mot rapidement, c'est la notion de la vitesse, qui est très développée dans tous ces jeux, jeux vidéo, jeux sur le net. Et la vitesse est également une dimension de nos sociétés contemporaines, technologiques, hein, où notre vie a fait introduire pas mal de, d'outils pour nous faciliter la vie. Et donc, d'aller plus vite. Vous savez tous, hein, le frigo, la voiture, le micro-ondes, la télé, etc. Plein d'outils qui environnent notre vie et qui visent, n'oublions pas, ce que je disais au début, les temps libres, d'agrandir les temps libres. La scholi, hein, au départ de l'école. Tous ces outils visent à aller plus vite dans notre vie quotidienne, de sorte à disposer plus de temps libre pour jouer. Et en soi, on ne peut pas être critique. Hein. L'homme d'aujourd'hui, par rapport à l'homme de Cro-Magnon ou quelques autres même de l'époque ancienne, de Gaulois ou de Grecs anciens ou de Romains, bien, l'homme d'aujourd'hui dispose d'un temps libre important grâce à ces outils qui ont permis d'aller vite dans tous les domaines. Voilà, toujours la même logique, disons, par rapport à cette notion de la vitesse et par rapport à ces objets qui prennent beaucoup de place, eh bien, ils peuvent avoir aussi la fonction pour certaines relations de remplacer des relations. Et quand ils glissent dans cette fonction-là, eh bien, là, ils ne sont plus dans leur fonction de faciliter la vie. Ils viennent dans d'autres fonctions qui, tôt ou tard, vont compliquer la vie. Un exemple ou deux que j'ai en tête comme ça, je l'utilise souvent, on ne le voit pas tellement avec les ados, mais on le voit avec les petits-enfants. Quelques parents pressés le soir, un peu fatigués, devant les difficultés de dormir de leur bébé, eh bien, ils lui mettent une lumière. Ils constatent que le bébé dort plus facilement. En fait, le fait que la lumière fait dormir le bébé, c'est comme ça fait une fonction de présence rassurante, bien sûr, mais une présence qui n'est plus une présence humaine, dont il ne peut pas s'en passer dans cette fonction-là. Et plus tard, les difficultés de sommeil, vu qu'on a toujours besoin d'une présence sensorielle en quelque sorte, hein, parce que c'est l'effet luminaire sur les paupières qui agit de manière calmante, et bien plus tard, d'autres stimulations sensorielles, jusqu'aux médicaments bien entendu, seront nécessaires pour calmer des moments difficiles. Vous voyez la lumière, très facilement utilisée parce qu'on trouve ces objets dans le commerce sans problème. Une autre fonction pareille dans cette notion de vitesse qui est utilisée, pareil, un parent fatigué le soir peut mettre son enfant devant la télé, le soir ou le week-end, pour que lui fasse autre chose. Bien, les petits enfants exposés à des images, même si c'est Winnie l'ourson, hein, exposés comme ça devant des images non partagées, une relation directe avec l'image, peut également aller dans la direction de remplacer une relation, donc de dépendre de l'image pour faire les fonctions de la relation. Vous voyez cette fonction calmante, accompagnatrice, etc. Et donc, du coup, on est vers les dérivés de ces outils, du coup, très utiles et très enrichissants de notre vie, mais sur des fonctions, du coup, qui ne sont plus utiles, je dirais, voire même donc sont néfastes pour la vie d'un enfant ou pour la vie d'un adolescent, d'un adulte. Hein. De ne pas pouvoir dormir sans lumière, de dépendre de la télé, etc., etc. Il y a des personnes aujourd'hui, même adultes, qui ne peuvent pas dormir sans la télé allumée. Voilà des dérivés. J'en ai vu un jeu tout récemment, c'est une fonction technologique moderne, comme quoi la technologie peut dériver, dans des jouets qui se vendent pour les jeunes parents. Et c'était un petit appareil qu'on met à côté du lit du bébé, dans lequel on a pré-enregistré la voix de sa maman, en général, ça peut être de deux parents. Donc quand le bébé crie, l'appareil se déclenche tout seul avec une voix calmante. Bien sûr, c'est l'appareil qui fait la fonction maternelle en général. Vous voyez une fonction d'un appareil qui ne peut que remplacer une relation, sans doute d'une manière très très mauvaise, et progressivement à faire entrer l'enfant, ou l'adolescent, ou l'adulte plus tard, dans ce type de dépendance aux appareils à la place des relations, aux appareils ou aux substances, parce que les fonctions de stimulation sensorielle peuvent venir aussi des substances. Voilà par rapport à la notion de la vitesse dans laquelle les choses peuvent glisser facilement d'un usage enrichissant et ludique ou qui fait découvrir au niveau de divers types de plaisirs vers des usages déshumanisants en quelque sorte, hein, excluant des relations et enfermant dans une solitude. Par rapport à l'image, on pourrait dire certaines choses, parce qu'effectivement l'image dans les jeux vidéo ou les jeux sur le net, elle est très importante. Aujourd'hui, on a dans plusieurs formes l'image. Bien sûr, la télé, qui est la plus ancienne et qui a fait une énorme invasion après la Deuxième Guerre mondiale. Elle a modifié beaucoup, beaucoup de choses de la vie commune. Ce ne serait pas le moment de les développer. Mais il faut garder, disons, cette sorte de différenciation que le spectateur est passif devant la télé. Il ne fait que suivre ce qui se passe. Il n'a aucune possibilité d'agir. Dans les jeux vidéo qui sont sur des consoles que vous connaissez, le PlayStation et Xbox, etc., là, on est toujours avec son double, mais que son double à soi, en quelque sorte. On peut jouer à deux ou à trois, ou à quatre, souvent dans ces consoles, mais en général, c'est une relation avec son double qui a ces fonctions dont je parlais autour de l'avatar idéal, idéalisant. On devient un héros immortel, etc. On peut s'y enfermer. Par contre, ce qui est nouveau dans les jeux, donc, c'est les jeux sur le net, en réseau, les cyberjeux, comme on les appelle, eh bien, ceux-là ont toute une autre dimension qui est celle de jeux en alliance, en groupe. Ou ce qui correspond tout à fait à la problématique de l'adolescence, en particulier, bien sûr, à tout âge, mais en particulier, c'est la question de la place dans un groupe, la question des alliances sous cette forme-là de la place. Et pour l'adolescence, je suis passé par là et vous êtes en train de le vivre sans doute, ou vous l'avez déjà vécu pour les élèves de seconde, la sortie de la famille de plus en plus se fait dans un glissement progressif, sans doute jamais entièrement. Et cela n'est possible que parce qu'on a des relations amicales, des relations dans des groupes de semblables, horizontaux, en quelque sorte. Donc c'est par ces biais-là qu'on entre dans l'espace social, en le différenciant de l'espace familial. Donc d'avoir une place dans un groupe, bien sûr même pour les enfants de la maternelle, c'est l'importante. Mais alors pour l'adolescence, c'est un élément majeur. Et pour ce qui me concerne, à la maison des adolescents, on voit quelques-uns qui sont en grand malaise parce qu'ils ne sont plus que dans des relations virtuelles. Ils ne sont pas dans des relations avec des potes, comme on dit, dans la vie quotidienne. Et c'est là donc une grande souffrance de se retirer que dans les relations virtuelles. On peut se retirer. Mais peu à peu, on se retire de tout et on peut ne pas aller à l'école, passer ses nuits entières devant l'écran et le lendemain, on n'est plus en état d'aller à l'école. Donc on arrive là dans des problématiques qu'on appelle phobie scolaire, etc. Donc pour l'essentiel, disons, dans les cyberjeux, qu'on peut faire maintenant dans les iPhones, on peut le faire dans d'autres endroits que sur l'ordinateur, eh bien, la question de la place parmi les autres est très importante. Sur l'image, qui est un élément principal autour de ce jeu, il y aurait beaucoup de choses à dire, dans la mesure où là, une dimension, disons, de grand pouvoir. On ne s'y arrête pas comme ça, hein. On la considère comme un élément de notre vie. Mais la fonction de l'image, elle a un énorme pouvoir. Et dans quelques cas de figure, on peut le voir de manière exemplaire. Vous connaissez sans doute, vous avez dû entendre parler de l'hypnose. C'est l'influence qu'un hypnotiseur peut avoir sur quelqu'un d'autre à travers l'image de ses pratiques. Vous avez dû entendre parler de pratiques vaudou, peut-être, où on agit sur quelqu'un d'autre, même à distance, en intervenant sur son avatar, on pourrait dire, sur une copie en poupée en général, et en faisant des choses dessus. Il y a des personnes qui sont dans des milieux où cela fonctionne, hein, et des personnes qui sont malades en fonction de ce type d'influence où on intervient sur l'image de quelqu'un, où on intervient que par l'image. Voilà, pour dire que la notion de l'image, elle a une fonction très importante, elle commence dès le début de la vie, et elle se lie, bien entendu, avec plein d'autres choses. Si ce n'est qu'elle passe progressivement, si elle se lie avec toute une série de signes, de symbolisation, de langage, etc., elle passe progressivement de la sensorialité, on pourrait dire, vers des représentations, vers des émotions. C'est plus juste seulement au niveau de la sensorialité, la fonction de l'image. Voilà, et même à travers l'image, dans une seule image, disons, qu'on peut utiliser dans un écran ou ailleurs, à l'intérieur, il y a une série d'éléments d'elles-mêmes qui peuvent servir de signes pour envoyer des messages. On peut envoyer un message, vous le connaissez bien, hein, les smiles qu'on envoie avec les portables, etc. Donc, toute une seule image, elle est composée à l'intérieur d'elle de petits éléments qui peuvent composer une sorte de langage, une sorte de message. Donc l'image, bien entendu, est un élément de base de la pensée et de la communication. Si ce n'est qu'elle fonctionne, on pourrait dire, normalement, quand elle est liée avec d'autres glissements de signes vers les fonctions de langage de la langue qui donnent une communication beaucoup plus riche. Si, avec l'image, on établit une relation duelle, tout seul, de cette sorte de communication-stimulation, eh bien là, elle est dans le danger, disons, dans les risques de confondre la réalité avec la fiction et de pouvoir confondre le virtuel, hein, d'être dans le virtuel sans être dans la réalité. Une référence juste au niveau des images qu'on voit tous, parce qu'on utilise partout les images aujourd'hui, qui sont, disons, à faire attention en quelque sorte. On les trouve beaucoup sur le net, on les trouve dans la télé également. Des images qui traitent la réalité brute, violente, et les images qui traitent également la sexualité brute, les images porno. C'est des images devant lesquelles on a tous du mal à prendre du recul, à avoir un doute, à pouvoir penser. Ce sont des images qui ont une action en quelque sorte asservissante. Et du coup, on peut créer des dépendances et déformer même sa capacité de penser. Un dernier mot pour faire un peu le tour de ces questions. Donc, dans les jeux vidéo, il y a énormément, mais de plus en plus, et surtout pour des jeunes de votre âge, on est dans les jeux sur le net. Hein. Sans doute, on peut toujours encore garder quelques retours sur la Xbox ou la PlayStation, mais de plus en plus, on est dans les jeux sur le net, où il s'est développé énormément. Et donc, le plus joué dans le monde, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, le World of Warcraft, où il y a le, on les comptait à, il y a 2 ans, 80 millions de joueurs de par le monde. 80 millions de joueurs de par le monde. En grande majorité des jeunes, ou un peu moins jeunes. Donc énormément, et sans doute maintenant doit être autour de 100 millions. Énorme. Et c'est le jeu donc qui a cette... Bien sûr, c'est un jeu de plaisir, comme tous les jeux. Mais comme je l'ai évoqué, l'importance de préserver sa place dans les alliances peut faire basculer vers une dépendance où on est angoissé de perdre sa place. Donc on peut s'acharner, traîner, aller plus tard dans la nuit, jouer encore. Et du coup, on n'est plus en état le lendemain d'assumer les fonctions de la journée. Voilà, donc de plus en plus, ça s'est désocialisé. Et le terme que j'ai entendu par les adolescents que je rencontre, c'est cette, ils indiquent cette graduation. Hein, ils disent, comment ils disent, non-life. Vous avez déjà en parlé. Hard gamer. Ah, c'est le hard gamer, c'est une première étape qui n'est pas tout à fait un joueur comme les autres, mais il est dur parce qu'il résiste longtemps. Comme s'il faut être dur pour résister longtemps devant ce jeu. Donc du coup, c'est le plaisir, vous voyez, il prend un adjectif qui est hard, qui est dur. C'est-à-dire de plus en plus, c'est pas autant le plaisir que d'être dur. On glisse sur les fonctions. Et bien sûr, l'étape d'après, c'est le non-life, comme disent les adolescents, hein, je l'ai entendu par eux. Et bien du coup, non-life, ça ne veut pas dire qu'on est mort, mais on est mort socialement. Et on n'est plus présent avec les autres. Soit on est le matin à l'école et puis on est à côté de ses pompes, parce qu'on n'est pas dormi, on n'est plus du tout réactif. Soit progressivement, on ne peut plus aller à l'école, aller ailleurs. Hein, le non-life, tel que les ados l'utilise comme terme, et voilà, veut dire ça, et qui indique donc le glissement du plaisir des jeux et de toutes ces qualités dont j'ai parlé avant, vers quelque chose qui met en avant le hard, le dur, l'endurcissement, mais l'endurcissement dans une solitude et dans une désocialisation progressive. Et manifestement, c'est le jeu qui incite plus à ce type de tendance, hein, le World of Warcraft. Également le jeu où on vend le plus sa place. On peut le vendre à 80€, à 100€, à 200€, selon le degré dans lequel on a évolué dans le jeu. Donc du coup, ça crée un commerce assez compliqué à résister pour ceux qui sont vraiment dans cette angoisse de perdre leur place. Un jeu qui se joue également beaucoup, mais bien moins que le World of Warcraft, c'est Guild Wars, qui est à peu près le même type de logique. Hein. C'est les alliances, les stratégies, etc. Et qui aurait, d'après ce qu'on constate, hein, parce qu'on n'a pas tous les éléments en main, il aurait moins tendance à développer cette sorte de dépendance. Du coup, il est moins pratiqué. Il n'a pas tant de millions de joueurs, comme Dofus également. Hein. Il aurait une dizaine de millions de par le monde. StarCraft également. Ou Cosac. Et d'autres jeux développés, vous connaissez tous, le plus vendu d'ailleurs, c'est pas ce jeu-là, parce qu'on se débrouille toujours de les avoir. Le plus vendu, c'est le Sims, qui est des stations familiales, etc. Enfin, c'est le jeu qui est le plus vendu. Ou alors des jeux qui développent d'autres logiques, pas des jeux d'alliance. Ces jeux-là donc sont plus conviviaux, comme Age of Empire, Age of Empire, on dirait en français, Age d'Empire, donc, ou Medal of Honor, ou Second Life, ou Half-Life. C'est-à-dire de pouvoir, là, carrément dans le possibilité de vivre un avatar. Donc c'est justement Second Life, c'est ça, c'est de se donner la conviction que peut développer une autre façon de vivre telle qu'on l'aurait rêvé en fait. Hein, c'est ça l'avatar en l'occurrence. Bien, probablement que ces propos commencent un peu à fatiguer, donc de continuer ces développements. Je me tiendrai là. Et vous pouvez poser des questions comme celles que j'avais déjà énumérées au début. J'en vois une autre, par exemple. Pourquoi les timides communiquent mieux avec les autres sur MSN? Voilà une question que j'ai devant moi. Quels sont les jeux les plus dangereux? C'était des questions que d'autres élèves comme vous avaient posées il y a quelques mois.
Je...